Ouverture.
Je regarde s'ils sont présents et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire, c'est d'écraser, d'humilier, d'humaniser.
200 livres la télé.
Un maton.
Dans les cours de promenade.
Un maton.
Des miradors.
Un maton.
Des psychologues.
Un maton.
Salut, bon bah bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur Radio Dio, 89.5 FM à Saint-Étienne. C'est l'émission Papillon qui commence. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc l'émission Papillon, c'est l'émission contre les prisons et l'enfermement. D'abord, un grand bonsoir à tous les gens qui nous écoutent et en particulier aux gens qui nous écoutent depuis la maison d'arrêt de la Talo. Là, on est le dimanche 5 décembre, vous nous écoutez en direct. Et on annoncera plus tard les rediffusions parce que j'ai pas du tout les dates en tête. Et voilà, bon, on est un petit peu à l'arrache, un petit peu à la bourre parce qu'on voulait vous faire un cours d'histoire ce soir et on est nul, on n'est pas prêt. Et en plus, Soso, elle est sortie hier soir, alors elle a pas bien préparé son émission. Bon, bref. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? D'abord, on va parler pas mal d'histoire de sans-papiers au début, avec notamment l'appel des retenues de Vincennes, un appel récent. Ensuite, on va revenir un peu sur l'histoire de Jimmy. Ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle. Jimmy, qui est à la maison d'arrêt de la Talaudière et qui a été déclassé, reclassé, qui a eu des soucis avec la paix, qui n'a pas baissé les yeux. Voilà, on a eu des nouvelles, donc on vous en reparlera 5 minutes. Et enfin, on va vous faire donc ce fameux cours d'histoire. Donc en fait, on va raconter un peu les événements de l'été 74. En 74, dans pas mal de prisons en France, ça pète carrément. Et là, on a trouvé des trucs sur ce qui s'est passé à Saint-Étienne. On avait envie de vous les raconter, notamment bon pour le vraiment vraiment moins drôle, un détenu qui a été tué par un surveillant. Mais tout ça, c'était dans un contexte de protestation plus généralisée.
Enfin, tout ça pour rappeler que la maison d'arrêt de la Talaudière, c'est pas forcément la paix sociale, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire au parloir.
Exactement. Voilà, c'est parti. Donc, Papillon jusqu'à 19h sur Radio Dio. À toi, Soso.
Oui. on voulait commencer en fait, puisqu'on a appris qu'il y avait un employé de la préfecture qui s'est fait choper en octobre par rapport à un trafic de documents. Alors bon, ça fait toujours trafic de documents, ça peut faire un peu peur. Mais bon, là, quoi qu'il en soit, cet employé de la préf, il s'est fait écrouer récemment dans la région stéphanoise. On suppose qu'il a la Talaudière. Donc c'est également un appel à témoignage, en fait. Donc en fait voilà, donc lui il bosse à la PREF, il a fait parvenir deux titres de séjour à deux Algériens, c'est ce qu'il a reconnu en fait lors de son interpellation, à deux Algériens qui en fait sont fait choper à l'aéroport en Algérie alors qu'ils s'apprêtaient à prendre l'avion pour venir en France. Donc lui il dit qu'il a fourni lors de son interpellation et de son audition, il dit qu'il a fourni ces deux titres d'interpellation parce qu'il a fait ça dans un but humanitaire et que c'était a priori sans contrepartie financière. Et actuellement, il y a toujours une enquête en cours pour déterminer s'il y a eu contrepartie financière ou pas, en fait. Donc voilà, ça, nous, on n'en sait rien. Et donc, s'il y a une contrepartie financière, bah, c'est un peu craignos, quoi. Mais bon, donc, quoi qu'il en soit, si cette personne est incarcérée à la Talaudière, si quelqu'un l'a fréquenté, la connaît, bah voilà, que nous on aimerait pouvoir avoir un peu sa version des faits, enfin qui nous dise pourquoi en fait il en est arrivé à faire ça, etc. Enfin si, donc voilà, et parce que ça pose quand même question sur toute cette solidarité face aux lois sur aux lois qui sont passées sur l'immigration, tous ces centres de rétention dont on parlera après, qui sont quand même bien dégueulasses. Et en fait, on nous parle de retenue, en fait, qui retiennent des gens, mais en fait, qui incarcèrent des gens. Le seul crime, en fait, c'est juste un crime administratif, quoi. C'est de pas avoir de papier, c'est d'être pas né au bon moment, au bon endroit, et de se déplacer, quoi. Donc voilà, si quelqu'un nous entend, connaît cette personne, si cette personne nous écoute, qu'elle n'hésite pas à nous écrire.
Ok, bon voilà, c'est fait. Donc on va passer, du coup, on va un peu dans la même thématique. On va revenir sur ce qui s'est passé au centre de rétention administrative de Vincennes, à côté de Paris. Donc c'est dans ce même centre de rétention qu'en juin 2008, il a été en proie aux flammes et il avait quasiment entièrement cramé. Donc voilà, donc toujours dans ce même centre de rétention. Qui était
reconstruit selon un modèle un peu plus humain. Enfin, c'est ce qui avait été dit dans les médias.
Ça avait été présenté comme ça, ouais. Donc voilà. Et alors, ça s'est passé le 20 novembre, dans la nuit du vendredi à samedi. Il y a eu un premier incident, en fait, c'est des retenus, enfin des détenus qui refusaient de voir un médecin, qui ont refusé de voir un médecin. Donc du coup, à part ces parties-là, il y a eu un mouvement qui s'est créé. Et là, deux retenus en ont profité pour s'évader. Donc voilà, il y a eu ça. Le lendemain, le calme était, voilà, c'était toujours un peu tendu. Et du coup, toujours pareil. Cette fois, c'est cinq autres personnes qui sont enfuies dans la nuit de samedi à dimanche vers 4h30. Donc voilà. Alors, apparemment, il y en a trois apparemment, ou trois qui se sont pas fait choper. Et je crois que a priori, ils sont toujours dans la nature. Donc tant mieux pour eux. Et voilà, donc suite à ces évasions, les retenus du CRA de Vincennes ont fait circuler plusieurs textes et plusieurs témoignages, dont un appel qui est paru donc le 22 novembre, donc juste le lendemain de ces évasions collectives et de ces mouvements aussi, quoi.
Alors je vais vous lire l'appel. Nous, les sans-papiers du centre de rétention de Vincennes, appelons à l'aide, car en plus de l'expulsion injuste qui nous attend, les policiers nous maltraitent. En effet, toutes les nuits, et pas à heure fixe, il y a un appel de nos noms par le haut-parleur qui nous oblige à nous réveiller en plein sommeil. Ça fait bien rire les policiers. Certains d'entre nous ont des blessures ou des maladies et on nous refuse tout accès aux soins médicaux. Qu'on ait des problèmes rénaux, intestinaux ou des maux de tête, c'est d'affalgan et va dormir pour tout le monde. Nous n'avons ni écoute ni négociation par rapport à des gens qui ne devraient pas être ici. Par exemple, l'un d'entre nous est depuis 24 ans en France. On veut parler avec des responsables de nos situations et savoir pourquoi nous sommes emmenés directement de garde à vue de la garde à vue du commissariat au centre de rétention sans voir un juge. Nous appelons les Français à se rassembler devant les centres de rétention ou à faire des actes de solidarité demain, donc là c'est voilà, demain mercredi à 20h et tous les soirs qui suivront pour nous donner du courage à l'intérieur. Nous sommes en lutte et observons presque tous une grève de la faim. Mohamed, Wessam, Karim et les autres. Et donc il y avait un numéro pour les joindre, je vais vous le donner si vous voilà savoir, pour savoir ce qui se passe, enfin pas perdre ce contact entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est le 01 45 18 12 40. Il y a aussi un autre numéro, 01 45 18 02 50. Et un autre numéro encore, 06 11 77 06 26. On pourra peut-être le répéter vite fait à la fin de l'émission.
Oui, voilà, juste un petit complément. Au début de l'appel, là, ils disent que les policiers les maltraitent. Et effectivement, en fait, il y a eu un dépôt de plainte, donc un peu ces mêmes jours, là, parce que un détenu a été tabassé par un flic. Et du coup, alors, ce qui est assez drôle, c'est que bon, c'était lynchage qui était prévu apparemment, parce que ils ont pas pu retrouver les images caméra, parce que ils ont pris la précaution d'éteindre toutes les lumières avant de tabasser ce détenu, quoi. Donc voilà. Alors après, en plus de ça, il y a eu des appels des témoignages, je veux dire, qui sont sortis du centre de rétention et qui reviennent un peu sur les évasions et tous les mouvements qu'il y a eu.
Ouais, donc ces témoignages, on les a trouvés sur Internet et on va vous en lire quelques extraits. Alors, je commence. Ce week-end, il y a trois personnes qui ont essayé de s'évader. Il y en a un qui s'est fait attraper et les flics, ils l'ont massacré. Ils se sont échappés parce qu'ils avaient un vol le lendemain et c'est des gens qui n'ont personne dans leur pays. Ils ont perdu le contact avec leur famille. Ils n'ont vraiment pas envie de rentrer, sûrement. C'est pourquoi ils ont fait ça. En plus, la bouffe ici, c'est de la merde. C'est sale, c'est vraiment la merde. Franchement, c'est galère.
Ils ont refusé de voir le médecin parce qu'ils n'ont pas de problème de santé, je pense. On n'en a rien à foutre des médecins. Ils veulent la liberté. Voilà, c'est tout. Quand on va voir le médecin, il nous pose des questions, si on a des problèmes, si on est suivi par des médecins dehors, quels médicaments on prend, par exemple. Moi, par exemple, je fume beaucoup de shit, pas beaucoup d'alcool et j'utilise des cachetons. Le médecin dit « Ok, on va vous donner des traitements ». Et là, j'attends. Je commence à être stressée. C'est pas bien.
Ils ont posé des questions au groupe des évadés. Pourquoi vous ne voulez pas voir le médecin? Normalement, c'est pas obligé de voir le médecin. À l'arrivée, c'est obligé. Peut-être qu'ils l'ont déjà vu, qu'ils ont pris des trucs. Ça les a rendus malades. Peut-être que c'est pour ça. Ils ont refusé de faire la même chose.
Les gens qui se sont échappés en avaient marre d'être ici. Ça faisait 30 jours, d'autres 25 jours qu'ils étaient là. Toujours la même bouffe. Il y en a qui ont maigri. Ils ont perdu des kilos avec le stress et tout ça. Les gens n'ont pas l'habitude, en plus avec la bouffe de merde. Il y en a qui ont vu que le lendemain ils avaient un vol. Il y en a qui en sont devenus fous. Il y en a qui sont suicidaires aussi. Ils préfèrent mourir que rentrer chez eux. Parce que là-bas ils n'ont personne, ils n'ont pas de famille. Ils vont crever de faim là-bas. Je te dis franchement, ici on mange. Même si t'as faim, tu vas n'importe où, à l'armée du salut, n'importe où tu manges. Là-bas il n'y a rien.
Lors de l'évasion, il y a eu plein de renforts de police. Il y en a qui se sont fait attraper sur l'autoroute. Il y en a qui ont réussi à s'échapper. Les flics, ils couraient partout. Mais c'est les policiers d'ici, de la police aux frontières, qui étaient dans le centre. Il n'y en a pas d'autres qui sont rentrés.
Pour s'évader, ils ont réussi à casser une vitre. Les vitres ici, elles sont incassables. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont réussi à forcer le grillage petit à petit et voilà, ils se sont échappés. Ils ont grimpé au grillage. Ils se sont fait du mal parce qu'il y a des trucs qui piquent au grillage, mais ils n'en avaient rien à foutre. Ils voulaient s'échapper et ils ont réussi. Par la vitre, il y a trois personnes qui ont réussi à s'échapper vendredi soir. Et samedi aussi. Il s'est passé des choses, mais dans l'autre centre. C'est des bâtiments séparés. C'est cinq personnes qui ont essayé de s'échapper et deux ont réussi. Vendredi, ça s'est passé dans le bâtiment 1 et samedi dans le 2.
Moi, là, je suis passée en jugement ce matin. Ils m'ont donné 15 jours. Ce sont mes premiers. Après, ils vont me donner encore 15 autres jours. Ça fait 4 jours que je suis ici. Ils m'ont arrêté comme ça. Contrôle dans la rue, dans le 19e à Paris. Je rentrais du travail. On était en train de discuter avec des potes et là, ils sont venus. Bonsoir, monsieur. Contrôle d'identité. Mes potes avaient leurs papiers, pas moi. Ils m'ont embarqué. 24 heures de garde à vue et voilà.
Là, on est au moins 70 ou 80. On est dans des chambres de 2 à 4 personnes. C'est petit. Les toilettes, elles sont dehors. C'est la merde, ça pue. C'est la misère. Il n'y a pas de morale. Ça maigrit, ça mange pas bien. Il y a des gens qui font la grève de la faim. Là, il y a un gars, ça fait 15 jours qu'il n'a pas mangé, il a maigri. Il a perdu je ne sais pas combien de kilos. Franchement, il ne mange plus rien. Il a maigri, juste il fume et il boit le café. C'est tout, il ne fait que ça. Je lui ai dit arrête. Il m'a dit je m'en fous, il faut que je sorte d'ici, j'ai pas envie de rentrer au bled. Il se fait du mal juste pour sortir. Il a maigri, truc de ouf. On dirait, je sais même pas. Je sais, ouais, bon là c'est un peu, ça finit en queue de poisson.
Voilà, donc ça c'était des extraits d'un témoignage qui est sorti par téléphone à mon avis du centre de rétention de Vincennes le 22 novembre ou juste après quoi.
Voilà, et ce qui est marrant, c'est que ce soit en centre de rétention ou en prison, ça rejoint un peu ce qu'on disait la dernière fois quand il y avait notre invité sur la médecine à Rouen. Hein, quand il s'agit de bourrer les gens de cachetons pour les calmer, il y a du monde. Mais quand, par exemple, le type qui s'est fait tabasser, là, quand il a demandé des soins, c'était un bout de pansement et un doliprane. Quoi. Donc, on voit bien.
Et puis, ce que disaient les collectifs de soutien à Paris, c'est qu'en fait, autour du CRA de Vincennes, des sans-papiers, c'est que en fait les médecins là-bas servent surtout à maintenir les gens en détention et pas à autre chose, c'est juste vérifier ça quoi. Et ce qui n'est pas sans faire penser au rôle des médecins dans les camps de concentration quoi.
Et toc.
Voilà. On pourra pas dire que je salis la mémoire.
Ouais, ouais. Alors suite à ça, il y a quand même eu plusieurs rassemblements devant le centre de rétention à Vincennes à Paris. Avec pas mal de quelques interpellations, il me semble. Enfin, juste pour des contrôles d'identité, mais quand même, il y a un jour, je sais plus quel jour, je crois que c'était le samedi juste après, une 25 interpellations, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Et du coup, sur les rassemblements, un grand classique, hein, pendant quelques dizaines de minutes, les gens ont réussi à, du coup, un peu, communiquer avec les gens à l'intérieur, faire un peu une sorte de parleur libre et tout, avec les retenues qui criaient liberté, liberté. Et au bout de 10 minutes, intervention des forces de l'ordre pour faire rentrer tout le monde. Et voilà quoi. Y a un autre truc dont on voulait parler, toujours un peu par rapport à ça, c'est que il y a pas longtemps, il y a eu. En fait, il y a eu toute une vague de juin 2008 à février 2009, à peu près, donc pendant ces 6 mois. Il y a eu 4 ou 5 centres de rétention qui ont été entièrement, partiellement détruits dans le cadre de révoltes, qui a eu pas mal de révoltes à ce moment-là. Il y a un an et demi, 2 ans, quoi. Donc voilà. Alors, en janvier 2009, il y a le centre de rétention de Bordeaux qui, comme celui de Vincennes, avait été détruit. Et récemment, là, il y a eu le jugement en assises qui a été rendu.
En assises?
Ouais.
Ah, putain.
Ouais. Et ouais, jugement en assises. Et du coup, ils ont pris. Il y en a un qui a pris 3 ans ferme et un autre qui a pris 5 ans ferme. Donc voilà. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est quand même, enfin, c'est des peines énormes, quoi. 3 ans ferme, 5 ans ferme, sachant que un an avant, en août 2009, il y avait eu aussi un incendie au Ménil-Amelot qui avait été à moitié détruit par les flammes. Et donc là, le jugement avait dû être fait tout de suite après, enfin peu de temps après. Et ils avaient pris des peines juste 1 mois, 2 mois, 2 mois, deux mois de prison ferme. Bon, ce qui est déjà énorme, hein, mais bon, voilà. En janvier 2008, il y avait eu aussi à Nantes, le centre de rétention de Nantes qui avait été entièrement détruit par le feu. Et il y avait eu des peines de 3 mois de prison ferme. Donc voilà, on voit que 2 ans plus tard, donc en 2010, hein, ça c'était 2008-2009, un an, 2 ans plus tard, on a des peines qui s'alourdissent considérablement, quoi. Et ça c'est aussi le cas, par exemple en Italie, il y a un peu la même chose qui se passe, c'est qu'il y a eu plein de mouvements et les peines pour révolte à l'intérieur des centres de rétention sont vraiment de plus en plus énormes, quoi.
Et tu sais s'ils sont soutenus un peu, ces gens qui sont passés aux assises à Bordeaux?
Non. Non, j'ai vu ça, mais bon, peut-être que sur place, voilà, il y a peut-être des collectifs locaux sur place qui s'en occupent, mais c'est vrai que j'ai pas plus d'infos par rapport à ça, quoi. Donc voilà. Alors ouais, enfin, je voulais juste peut-être pour conclure. Là, on parle du centre de rétention. Hein, ici, c'est une émission sur les prisons, mais juste que voilà, les frontières entre les deux, elles sont pas opaques. Hein. Il y a aussi beaucoup de sans-papiers en prison qui peuvent arriver en prison pour refus de se faire expulser quand ils montent dans l'avion, des choses comme ça. Donc ils se débattent un peu. Je sais pas, refus de donner son pays d'origine ou alors rien que ne fait de pas avoir de papier et être sur le territoire français, c'est un délit en soi quoi. Donc voilà, suffit qu'on soit en état de récidive avec les peines planchées, voilà quoi. Donc on y est. Donc centre de rétention, prison, voilà. C'est... Et ça va.
Pour Dimitri
qui est concentré dans les studios. Voilà.
Il va mieux. Il a des lunettes aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a fait hier soir, mais. Bon voilà. Bon, c'était pour la conclusion. Donc là, on passe un morceau là, je crois. Hein.
Tu nous passes quoi, Payou?
Je vais passer Médine. Un petit morceau sur l'utilisation des récupérations des faits divers, on va dire.
C'était en juillet 2004. Commissariat d'Aubervilliers, déposition C. Marie Leblanc qui porte plainte pour agression contre une demi-douzaine de méditerranéens sanguinaires maghrébins qui n'avaient rien de caucasien. En effet, même si la mémoire vous fait défaut, quels sont les faits? Qui sont ces fous? Quel trajet avez-vous fait? Marie raconte qu'en ce 9 juillet 2004, elle se rendait à la plus au nord de toutes les gares. Embarquement 9h37, station Louvre. Sous le wagon, la pression souffle et les portes s'ouvrent. 20 personnes sont dans la rame, un mélange de français, de souche, de noir et d'arabe. En parlant d'eux, ils m'ont fusillé des yeux, monsieur. Je n'ai jamais eu aussi peur de la banlieue, monsieur. D'autant plus que je transportais l'enfant que j'avais durement mis au monde 13 mois auparavant. C'est d'ailleurs le sujet qui amorcera la discute. Ou bien devrais-je plutôt dire la dispute, prétextant que la poussette irait bien à sa sœur. Ma dignité a fait les frais du premier agresseur. Un second trouve ma carte en fouillant dans mon sac. Mon adresse postale m'amène dans un cul-de-sac. Tu sais que c'est la façon dont j'avale ma salive lorsqu'ils précisent que le 16e est rempli de juifs. Ashkenaz, ils sont tous pleins aux as. Pleurnichards à l'occasion, ils ne manquent pas d'audace. Marie Leblanc n'est pas au bout de sa fin, car les six barbares découpent désormais ses vêtements féminins. Elle sent le froid de la lame sur sa peau blanche, les noirs coupent à l'arme blanche, la chemise de Miss Leblanc. Et au marqueur laisse un souvenir macabre sur son ventre, des croix camées sorties du Troisième Reich. Avant de descendre à Sarcelgar, j'telle un scalp d'Apache, arrache une mèche à Satignas. En tout, 13 minutes dans un train d'enfer, démoniaque signifie le D de ce RER.
De ce journal, une jeune femme dans un RER a été agressée par 6 hommes parce qu'ils la croyaient juive.
La France est sous le choc.
L'indignation générale, condamnation après une agression à caractère antisémite dans le RER au nord de Paris.
C'est un acte épouvantable.
De tels actes sont inadmissibles.
Ça ne doit pas exister.
C'est la France qui est visée à travers ces actes ignobles.
Le certif médical et le procès verbal seront transmis d'Aubervilliers à la PJ de Versailles. En raison du caractère antisémite de l'affaire, il faut faire ça. Dire cette histoire du rayon fait divers. Les enquêteurs subissent une triple pression hiérarchique, politique et publique. Opinion Chirac en personne a fait part de son effroi. De Villepin et Nicole Cage relayés par les médias. Le conflit palestinien nous pend au nez. Il est aux portes de la France, sur la Méditerranée. Il gangrène les banlieues, plongées dans la crise, dont les ficelles sont tirées par des barbus marionnettistes, islamistes de surcroît, ou du moins de surcroît. S'ils sont tombés sur elle, la prochaine fois ce sera sur toi. À aucun moment le conditionnel n'est employé, ni par la classe politique, ni par les chaînes télévisées. Pourtant, les enquêteurs n'ont d'autre preuve qu'une parole pour eux. C'est désormais une histoire qui ne tourne pas rond. Aucune trace des agresseurs sur caméra. Mais le pire, aucune trace de Marie sur les quais de la gare. Au moment des faits, un témoin l'aurait vu. Passe à l'ouvre-gare, mais sanglotant sous un abribus. À l'envers, et telle croix qu'un mec qui colle au corps. Il faut qu'elle collabore pour que l'histoire corrobore. À l'audition, les enquêteurs mettent la pression. Ils veulent voir clair en confrontant les deux versions. 3 jours plus tard, la dépôt devient poteau rose. Marie Leblanc a menti parce qu'elle est amoureuse.
Et vous, Médine? Quelle est votre opinion sur cette affaire?
Question, affabulation de femme ou défaillance? Réponse, de la vengeance dans un costume d'innocence? Question, pour quelle raison selon vous on vous accuse? Réponse,
Incarnation comme mode de France et qu'on refuse.
Question.
La presse doit-elle publier son démenti?
Réponse.
Et qu'elle le fasse pour tous les mensonges à venir?
Question.
Que pensez-vous ici de l'antisémitisme?
Réponse.
C'est un cancer tout comme l'islamophobie.
Question.
Arabes et noirs ont-ils eu réparation?
Réponse.
Trois petits points de suspension.
Question.
Vous sentez-vous français après cette scène?
Réponse.
J'attends le prochain match pour siffler la Marseillaise.
Je suis profondément désolée de tout ce qui est arrivé par ma faute. Je présente mes excuses à Monsieur le Président de la République, à Madame Nicole Gage et aux personnes qui ont manifesté leur soutien sur mon mensonge.
Voilà, donc vous écoutez toujours l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5 FM à Saint-Étienne. Donc maintenant, on va enchaîner avec la suite et fin d'une autre histoire qui, en fait, n'est pas terminée. C'est l'histoire de Jimmy, donc Jimmy qui est incarcéré à la maison d'arrêt de la Talaudière, qui nous a écrit il y a quelques mois parce qu'il avait été déclassé des ateliers. Donc je rappelle vite fait, être classé, c'est être classé au bâtiment des travailleurs et donc ensuite avoir droit de travailler en prison. Et il y avait eu une embrouille qui nous a raconté à l'atelier, qui est partie d'une histoire où des gens se faisaient du café, ça faisait sauter les plombs, ça énervait les surveillants, ça les a énervés de voir des gens ricaner, et le lendemain, eh ben, ils se sont plus ou moins vengés en punissant un groupe de personnes, en leur demandant de balayer je ne sais plus combien de fois par jour sous leur table, genre une punition vraiment qui n'avait aucun sens. Et il y a plusieurs personnes qui ont ouvert leur gueule pour dire que c'était n'importe quoi, dont Jimmy. Et le ton est monté directement entre le surveillant et Jimmy. Il a été déclassé, donc ça veut dire virer des ateliers, mais aussi des cellules entre mille guillemets privilégiées que les travailleurs ont. Voilà, en plus c'était assez tendu avec certains membres de la surveillance de la prison. Donc lui, il a porté plainte. On lui a dit « ta plainte, c'est bien gentil, mais ça ne servira à rien, en gros ». Il a demandé du soutien extérieur, donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit aux assos, dont on parle régulièrement à l'antenne, qui suivent un peu ce qui se passe en prison, c'est-à-dire l'Observatoire international des prisons, Banc public, on a fait passer aussi à l'Envolée, à l'ARPI, et on a écrit au contrôleur général des prisons. Donc il y a une partie de ces assos qui sont un peu occupés de l'histoire, dont Banc public et l'Envolée qui a publié aussi un peu ses lettres. Et résultat, lui, Jimmy, ce qu'il voulait, c'est retrouver du travail parce qu'il en avait besoin, un point de vue financier, mais aussi et surtout, vu que ses relations s'étaient nettement dégradées avec des membres de l'administration, lui, ce qu'il voulait, c'est être transféré. Donc voilà. Donc on va revenir...
Ça pour être rapproché de sa famille, voilà. qui fait 290 bornes aller-retour quand elle vient au parloir.
Voilà. Donc juste pour dire ce que Banc public lui a répondu, les gens de Banc public ils se sont penchés sur le côté juridique de l'affaire et donc je voulais vous lire juste 2-3 extraits de leur lettre parce que je pense que ça peut éventuellement servir si vous vous sentez un jour victime d'un déclassement abusif. Voilà ce que, donc en théorie, dans le texte, il faut faire. C'est on a 15 jours pour contester préalablement la décision auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires à Lyon, donc la DISP de Lyon. Eux, ils doivent répondre dans un délai de 1 mois. Voilà. Quand on a reçu la réponse de la DISP de Lyon, ou qu'on ne l'a pas reçue, c'est-à-dire au bout d'un mois, on a 2 mois pour former un recours devant le tribunal administratif. Donc, ce n'est pas une plainte qu'on fait forcément au pénal, mais auprès du tribunal administratif. Voilà. Et sinon aussi, ils lui ont dit, vous pouvez refaire une demande d'emploi et en cas de refus, vous pouvez contester ce refus de la même manière. Voilà, j'espère que je suis un peu claire. Voilà. Comme lui, il avait fait une plainte au pénal, je pense, elle a dû être transmise au parquet de Saint-Étienne. Et si le parquet de Saint-Étienne décide de ne pas donner suite, il doit envoyer un avis de classement sans suite motivé. Voilà, c'est pas juste, t'as fait une plainte, elle est nulle, on la met à la poubelle, quoi. Tu dois recevoir une lettre du parquet qui dit ta plainte est classée sans suite. Voilà. Et si une plainte est classée sans suite, on peut faire un recours dans un délai de 1 mois à compter de l'avis de classement. Voilà, donc c'est des trucs un peu compliqués. Banc Public explique aussi que c'est bien de saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté, donc au moins pour qu'il soit au courant, le médiateur de la République et l'inspection générale des services judiciaires. Donc tout ça, c'est un peu de la théorie, mais c'est vrai que c'est des choses que c'est bien à savoir quand on veut se bouger d'un point de vue juridique et administratif. Et puis je rappelle que nous, dans ces cas-là, on est là pour filer des coups de main, faire parler des trucs. Mettre des coups de pression
s'il faut auprès de la direction, voilà. Par des courriers aussi, ça on peut le faire.
Voilà, parce qu'en fait, en gros, les courriers qu'on a envoyés à divers assos ont finalement concrètement pas donné grand-chose, mais juste que le fait que Jimmy, il ouvre sa gueule et il baisse pas les yeux.
Et qu'ils sont entourés.
Et que voilà, ils sont entourés et qu'il y a des gens dehors qui envoient des courriers. Ça a mis un peu la pression. Donc d'ailleurs, on va lire sa lettre. Et au passage, un grand salut à toi, Jimmy.
Ouais. Alors, je vais commencer par te dire tout déjà que je suis de nouveau inscrit et retourné aux ateliers. Car en fait, il y avait un vice de forme dans mon déclassement. Ils m'ont tellement déclassé vite, en fait, qu'ils ont fait n'importe quoi au niveau des papiers, en oubliant des papiers, des articles, etc. Que ça a créé des vices de forme. Et avec votre soutien, en plus, au final, j'ai eu gain de cause. Donc tant mieux pour moi. Bon, j'avoue qu'entre le moment où j'ai regagné le bâtiment travailleur et que je suis redescendu à l'atelier, il s'est passé un mois et demi quand même. Le chef de l'atelier étant monsieur nanana, alors forcément voilà, j'ai dû à plusieurs reprises attraper d'autres chefs, même directrices, afin de pouvoir faire respecter sa décision et mes droits. Depuis ma plainte, les rapports ont bien changé entre l'atalodière et moi-même. Se rendant compte que je n'étais pas si bête et pas tout seul, ils sont plutôt passer au psychologique maintenant. Exemple tout bête. Depuis que je suis retourné au B, j'ai eu le droit à peu près 10 ou 20 fouilles de cellules. À l'atelier, on m'a mis au piquet, côté pointu, là-bas, tout seul dans un coin. Même les surveillants de l'atelier ne m'adressent plus la parole, ce qui me fait beaucoup sourire d'ailleurs. Je suis un peu joueur et je kiffe ce jeu. Ils sont tellement ridicules en fait que ça peut me faire que sourire. Mais la meilleure nouvelle en vérité, c'est que mon transfert a été accepté pour la maison d'arrêt de Privas. Enfin, et qu'il est fort probable que je ne sois plus là pour Noël, d'après la directrice. Juste de savoir ça, ça me libère d'un poids. Je me voyais mal finir ma peine ici, ça me pesait, mais pas qu'à moi, à ma femme aussi. Je te joins d'ailleurs des documents qui l'attestent, et d'autres comme l'OIP et Banque Publique. Pour moi aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, c'est de partir d'ici, finir ma peine tranquille et sortir bientôt, je l'espère en tout cas. Voilà, pour moi, entre guillemets, j'ai gagné à partir du moment où je vais partir. Alors encore fort merci à toi, à vous, à la radio et votre soutien. Voilà.
Voilà, donc cette lettre, elle faisait bien plaisir. Après, ce qui fait moins plaisir, c'est qu'on a appris que finalement, c'était pas fini. Jimmy n'a pas encore été transféré, alors espérons que c'est juste à cause de la neige. Et
si c'est pas le cas, on essaie de mettre les bouchées doubles, quoi.
Voilà. Enfin, on dirait qu'il s'acharne un peu sur lui, mais on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, on va suivre. Et puis, si tu nous entends, vu que tu es peut-être encore à la Talo, grand bonjour, bon courage.
Courage à ta femme aussi.
Voilà. Et moi, je trouve que c'est admirable en fait d'avoir ouvert sa gueule et pas baissé les yeux. Ça doit être super dur dans ces cas-là.
Et s'il y a besoin de quoi que ce soit, nous on suit, on est là.
Voilà, donc on vous racontera la suite en espérant qu'elle soit plus positive. Et on écoute un peu de musique encore.
Allez,
petite pause.
Petite pause.
You burn the ghetto with anxiety.
Et voilà, donc on enchaîne, on est toujours sur Radio Dio, vous écoutez toujours l'émission Papillon. Donc comme on vous annonçait en début d'émission, en fait aujourd'hui on s'est dit tiens on va faire raconter un peu d'histoire locale. Parce qu'en fait on a trouvé dans les archives du journal du CAP, le comité d'action des prisonniers, un article qui s'appelle « Un assassinat légalisé ». À propos de la mort de Gilbert Bénard, donc prisonnier à la maison d'arrêt de la Talaudière, durant l'été 74, voilà, qui a été tué d'un coup de fusil dans le dos par un surveillant. Voilà. Donc on s'est penché un peu dans les archives et tout, on a fait les historiens, historiennes en herbe, ce qu'on n'est pas forcément, mais voilà. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'été 74, et déjà bien avant ça a commencé, c'était un été de mutinerie et de protestation généralisée dans les prisons de France. Donc, je ne me suis pas trop repenchée très précisément dans les trucs, mais genre, la centrale de Clairvaux, il y a eu une énorme mutinerie. Il y en a eu
deux morts.
Ouais, il y en a eu à Losses-les-Lilles, à Caen, à Nîmes. En gros, voilà. Donc, nous, les sources, enfin, là où on est allé fouiner un peu, c'est dans la presse, aux archives, à la médiathèque, là, aux archives de la médiathèque. On a fouiné dans la presse, on a fouiné aussi dans les archives du journal du CAP et aussi dans une brochure qui est en trois volumes. C'est une chronologie, en fait, des mouvements de protestation dans les tôles en France. Cette brochure, elle s'appelle « Il y a du baston dans la tôle ». Elle est pas mal du tout. Et justement, pour introduire notre affaire, je vais vous lire une petite note qu'ils ont écrite. C'est que la chancellerie dénombre, pour le seul été 1974, 89 mouvements de révolte collective. 11 établissements ont été partiellement ou totalement détruits. On décompte officiellement 7 morts chez les mutins. Les mouvements sont suivis d'une grève des surveillants qui réclament des hausses des salaires. 17 milliards de francs sont débloqués pour qu'ils reprennent le travail. Voilà. Et donc, pour ce qui concerne notre histoire, à la Talo, donc, il se passe des choses. Et le premier petit truc de cette période, c'est le 18 mai, donc 74, dans le centre de jeunes détenus de la Talaudière, il y a 17 mineurs qui refusent de remonter de promenade et qui sont soutenus par l'ensemble des détenus. Et ensuite, ça continue.
Tu veux dire un truc?
Ouais, il y avait juste... Revenir un peu, il y avait cet été 74 dont tu as parlé, mais bon, faut dire que en gros de 70 à 75 à peu près, il y a quand même plein de mouvements dans plein de prisons. Je crois que je sais plus, c'est en 71, 72, il y a un gros mouvement à Toul. Voilà, et en fait, c'est dans ce contexte-là que il y a d'abord le GIP, donc c'est le groupe d'information sur les prisons qui naît. À l'initiative d'intellectuels de l'époque, comme il y avait Deleuze, Foucault, Jean-Marie Domenac, enfin moi ils étaient plusieurs. Donc eux, ils faisaient vraiment de l'information sur ce qui se passe en prison, mettre un peu en lumière tout ce qui se passe, surtout dans ce contexte-là, d'émeutes généralisées, etc. Ça c'est en 70-72. Et après, donc le GIP, ça finit en 72. Et après, il y a justement le CAP. Alors là, c'est vraiment des détenus, des anciens détenus. Et bon, notamment l'initiative de personnes comme Serge Livrozet, c'était un mec qui a écrit pas mal de trucs sur les tôles, notamment un livre où il raconte, qui s'appelle De la prison à la révolte, qui est vraiment, vraiment très bien, où il raconte un peu son parcours de délinquant à révolter, plus généralement, quoi, on va dire ça. Donc, ouais, donc il y a le CAP qui naît. Alors, le CAP, c'est un journal. C'est un journal qui paraît pendant une bonne dizaine d'années, on va dire. Le premier numéro, il doit être de fin 72, décembre 72, et le deuxième de 73. Donc voilà, donc c'est une asso, hein. C'est une asso qui a pour but, qui s'est donné pour tâche d'obtenir une amélioration réelle du sort des détenus pendant et après leur incarcération. Donc voilà, il y avait des collectifs CAP un peu partout en France, dans plein de tôles. Donc des gens qui sortent de prison, des gens qui des anciens détenus, des gens en prison qui témoignent. Enfin, c'est vraiment on a vraiment un journal où les détenus ont leur place, où ils racontent. Donc si vous prenez les journaux, il y a plein de récits.
C'est la parole des détenus, quoi. C'est
voilà.
Ça.
Et il y a les récits de.
C'est eux qui sont moteurs de ça, en fait. Voilà, c'est pas uniquement l'extérieur. Quoi.
Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment ça. Donc en fait, juste, je voulais revenir un peu là-dessus avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de ce qui s'est passé vraiment à Saint-Étienne, à la Talo. Le CAP, ils avaient une sorte de plateforme. Enfin, c'est comme ça, ils se sont montés comme ça. Hein, une sorte de plateforme de revendication. Et en fait, ça, c'est vraiment la base, hein, parce qu'ils ont toujours été, pour eux, voilà, c'est la destruction des prisons et aussi et du monde qui va avec. Hein. Mais bon, voilà. Après, il y a la base. Il y a cette plateforme de revendication en 11 points. Donc, j'ai peut-être pas tous les lire. Mais bon, c'est assez significatif de comment les conditions de détention de l'époque. Et voilà, et puis on peut voir que quelques décennies plus tard, on est loin de leurs revendications,
satisfaites.
Continue, quoi. Exactement, cherchez le mot. Donc ouais, il y a par exemple suppression du casier judiciaire, suppression de l'interdiction de séjour, suppression de la peine de mort, suppression de la prison à vie, donc là on en est très très loin, suppression de la tutelle pénale. Réorganisation du travail en prison, donc salaire minimum égal au SMIC, sécurité sociale pour la famille, etc., droit au parloir, correspondance, enfin bon voilà, il y a 11 points qui redétaillent après, et ça en gros c'est la base, quoi. Donc voilà, c'était pour faire un petit topo sur le CAP, et c'est aussi sur le CAP qu'on a trouvé justement un petit résumé qui reparle de cette histoire, et notamment de Gilbert Bénard qui est décédé, qui s'est fait tuer par un maton à la Talo.
Ouais, alors déjà, toi, tu parlais déjà de quelque chose qui s'était passé en mai au quartier des mineurs. Donc après, on passe au 5 juillet, donc début juillet 74, où là, il y a des détenus donc qui refusent de travailler, de regagner leur cellule, comme titre le Progrès, hein, le journal local de Saint-Étienne. Donc voilà, le matin du 4 juillet, entre 8h et 11h30, donc il y a 52 détenus qui ont occupé les ateliers et refusé de travailler. Parce que des fouilles avaient été entreprises donc aux ateliers par les matons, et ça avait permis la découverte de provisions cachées, donc du sucre et du café. Et donc ça leur avait été confisqué à la base. Donc ça, c'est pas sans nous rappeler justement l'histoire, la base de toutes ces embrouilles qu'il y a eu à l'atelier et dont Jimmy a, notamment, et d'autres ont pâti aussi, quoi. Enfin,
ouais. Voilà, juste faire du café en douce à l'atelier, c'est... Ça peut déclencher des trucs de fou, quoi.
Et du coup, donc les détenus protestaient donc sur le fait de plus pouvoir faire leur popote visiblement sur le lieu de travail. Donc ça, c'est une première protestation qu'énonce le journal. Et donc dans l'après-midi, ça continue dans l'après-midi de la même journée. À l'issue de la promenade, il y a 14 détenus qui refusent de regagner leur cellule en dénonçant des conditions inhumaines. Donc on voit que le sucre et le café, c'est un élément parmi d'autres. De la révolte, en fait. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que, juste une petite parenthèse sur la Talaudière. Donc à l'époque, les journalistes disent que la Talaudière, c'est mettre les prisonniers au vert. Enfin, il y a tout un petit côté comme ça, bucolique, dans la rhétorique de leurs articles. Et en fait, c'est une nouvelle prison. Et donc qui est censé faire des améliorations, etc., comme on nous parle maintenant aussi des meilleures prisons qui vont résoudre les problèmes de l'incarcération, etc. Et en fait, on voit que ça a beau être une nouvelle prison, Mais tout ce qui se passe après, du coup, démontre vraiment l'argumentaire de une nouvelle prison qui améliore le sort des prisonniers, en fait. Donc voilà, donc ça continue, en fait, dans l'après-midi, le lendemain, puisque 25 prisonniers, donc toujours ça, c'est les chiffres hein, du progrès, décident de ne plus quitter la cour, et ils reçoivent le soutien de ceux qui sont restés en cellule, et du coup, qui tentent depuis les fenêtres d'informer les journalistes qui étaient sur place, à l'extérieur, en disant que c'est un mouvement de protestation contre les conditions d'incarcération, et ils parlent aussi du fait que... les mineurs sont placés au mitard. Donc déjà, il y a un truc de solidarité entre détenus, mineurs, voilà, enfin, peu importe ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, il y a des mineurs qui sont au mitard. Et peu importe si c'est des gremlins, comme on dit maintenant, ou quoi, mais en tout cas, voilà, ils protestent contre ça. Ils disent, nous, on réclame ni caviar, ni scotch. Voilà, on a des vraies exigences. Et là, le journaliste dit, un mouvement de plus. Voilà. Et du coup, donc, suite à ça, dans le jour de cette contestation, pardon, donc il y a une première fois mention de Gilbert Bénard, donc cette personne qui a été assassinée le 28 juillet, puisqu'elle faisait partie des 25 et que ce jour-là, suite au mouvement de protestation dans la cour, elle est remontée en fait, et en remontant, elle arrive à esquiver et à monter sur le toit. On le voit d'ailleurs en photo. À cette date, et donc il se met au bord du vide et il menace de sauter, et le journaliste dit qu'en fait il se met là, c'est pour obtenir un tête-à-tête avec la personne qui l'accuse dans son affaire, en fait, et voilà. Et donc déjà, là, il y a une première mention de Gilbert Bénard, enfin déjà, c'est un type qui se met en lutte, hein. Il monte sur le toit, il se rend visible, il proteste, quoi.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait... Dans l'histoire des mouvements de protestation de prisonniers, c'est hyper souvent en fait qu'ils sont montés sur les toits pour protester, pour se faire voir et entendre du dehors, pour se rendre un petit peu inaccessible aux gardiens, etc. Quoi. C'est vraiment un truc qui s'est fait, qui se fait moins, mais
ouais, parce
c'est
que
de plus en plus chaud. Quoi.
Les photos d'époque, il y a souvent des types sur les toits avec des banderoles, genre on nous tue, etc. Enfin, c'est vraiment un truc... Enfin, ça a la patate, quoi. Enfin, ça, c'est clair et net, quoi. Et donc, voilà. Donc là, il y a ces trois premiers articles début juillet, alors que partout en France, il y a des mutineries qui se multiplient. Donc, on n'entend plus parler de la Talaudière jusqu'au 28 juillet. Et là, donc, le journal relate que la veille, il y a eu deux évasions nocturnes qui ont été manquées. Et d'ailleurs, sur cette une où ils annoncent ça, ce gros titre, ils annoncent aussi qu'il y a des incidents à Lyon et dans d'autres centrales. Et là, il y a une belle photo de la prison de Loos-les-Lilles dans le Nord qui est mais ravagée par le feu. Donc ça fait plaisir à voir. Mais bon, pas sans dommages collatéraux, bien évidemment. Et du coup, donc, par rapport à cette tentative d'évasion, donc les deux personnes en question, donc ça se passe le 27 vers 23h50, les deux personnes en question se rendent, selon la presse, assez facilement. La police qui appelait en renfort, donc ça c'est pas mal ce qui est relaté par le journaliste. Donc la police arrive rapidement, machin. Ils expliquent un peu comment s'est faite la tentative d'évasion. Donc c'est toujours classe de rappeler un peu. Voilà, les cellules étaient situées aux étages inférieurs, donc ils seraient descendus, ils auraient scié des barreaux, enfin bref, un truc... Ouais, ils seraient descendus jusqu'au pied du mur de l'enceinte, etc. Ils auraient lancé des grappins et avec les filins, en fait, des grappins étaient fabriqués avec les draps. Donc voilà. Et donc, dès que le gardien hyper zélé s'aperçoit de ça, il donne l'alerte, les forces de police déboulent avec la brigade d'intervention canine, équipée de deux énormes molosses, hein, des bons toutous, des bons petits chiens à leur maître, appelés Thompson et Anéo. Donc voilà, on se demande si ces deux petits toutous, on se demande ce qu'ils ont pu faire. Voilà, donc la tentative d'évasion est avortée. Toute la nuit, ils cherchent des complices, les flics. Et le journaliste conclut en disant « L'animation qui régnait à l'extérieur n'a pas suffi à étouffer les cris des prisonniers que l'affaire avait fortement excité. » Et là, donc, alors que le journaliste parlait de petits mouvements, un de plus, etc., de petites manifestations de mécontentement, hein, voilà, le journal du 29, donc le lendemain, revient sur la journée du 28 et fait sa une en disant « Après-midi d'émeute à la Talaudière, mort de Gilbert Bénard ». Et donc là, voilà, donc là, ça recouvre plus les petites manifestations bucoliques, mais là, on est vrai. Là, il parle de rébellion.
Voilà, donc là, on va passer à la version du Cap de la mort de Gilbert Bénard et de cette journée du 28 juillet, qui dit, donc le Cap, on ne sait pas exactement d'où sont leurs sources, ils ne le disent pas. C'est dommage, mais moi je pense qu'ils ont recoupé les infos des médias, mais aussi des témoignages de prisonniers. Et donc ils en ont tiré un article qui raconte cette journée-là. Et donc voilà, je vais essayer de vous le résumer vite fait. Donc en gros, le 28 juillet, dans l'après-midi, il y a une vingtaine de détenus qui refusent de remonter en cellule après la promenade parce qu'ils demandent que les revendications qu'ils ont déjà exprimées soit satisfaite alors que ça a toujours été sans effet jusqu'à maintenant. Donc ces revendications, c'est amélioration de l'ordinaire, promenade plus longue, parloir rapproché avec les enfants, augmentation des salaires, conditionnel et semi-liberté. Donc refus de remonter en cellule, discussion avec des surveillants et des gradés. Et puis pour une fois, on leur dit « on va étudier vos demandes ». Donc ils disent « ok, on remonte en cellule ». Voilà, on ne s'excite pas, on se calme. Ceci dit, pendant ce temps, il y a des gens qui étaient en cellule au troisième étage qui voient des voitures de police débouler à la prison. Donc ça fait remonter un petit peu la tension. Et là, il y a une séance de projection qui est programmée à la Talo. Et à ce moment-là, il y a quelques détenus qui en profitent pour piquer le trousseau de clés d'un surveillant sans aucune violence. Et qui ouvre des cellules. Et voilà, donc là, ça devient un petit peu le bazar parce que les gens sortent de leurs cellules, se répandent un peu partout, etc. Alors déjà, à ce moment-là, et ça, on n'en parle nulle part dans les journaux, il y a uniquement le Cap qui en parle, il y a un détenu qui s'empare d'un poteau de je ne sais pas trop quoi de sport, d'un terrain de sport, et qui essaye de défoncer un grillage. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce détenu ne risquait pas de s'échapper, il y avait des flics partout autour, mais un maton, lui, vide son chargeur de flingue dessus. Alors, heureusement qu'il vise mal, franchement, parce que le gars a eu que, entre guillemets, une blessure au talon. Mais bon, quand même, c'est...
Et pour avoir épluché pendant des heures les archives à la médiathèque des journaux, pas une fois cette personne, ce qui lui arrive, ils en parlent, quoi. Pas une seule fois.
Voilà. Donc la tension monte, c'est le bazar un peu dans la tôle. Donc il faut savoir que les gardiens, ils sont mis en retrait. En plus, ils sont protégés de l'extérieur par la police. Donc par exemple, plus tard, ils ont dit on aurait pu avoir une prise d'otage, mais c'est faux. Parce qu'ils sont séparés des prisonniers. Ils sont sortis du truc, ils ne sont pas en danger. Et pendant ce temps, il y a un groupe de détenus qui se dirige vers le Mirador, qui monte dans le Mirador. Et donc parmi eux, il y a ce fameux Gilbert Bénard qui essaye de sortir par la fenêtre et de se glisser sur le toit. Et là, le même surveillant qui avait tiré sur un détenu quelque temps avant, et ben là, il lui tire dessus, donc peut-être avec un de ses collègues, et il lui tire deux coups de fusil dans le dos. Donc pareil, plus tard, ils diront « on s'est senti menacé » ou « il risquait de s'évader ». Les petits schémas et les petites enquêtes comme ça que les gens ont fait montrent qu'ils ne risquaient pas de s'évader.
Et puis les journaux le disent, ils étaient sortis de la prison.
Voilà, ils risquaient de prendre personne en otage. Contrairement à d'autres prisons, il n'y avait pas de tuiles sur le toit, donc ils ne risquaient pas de jeter quoi que ce soit sur les matons. Enfin voilà, la fin de l'article en gros raconte, explique et démontre point par point toutes les justifications qu'il y a eu à cet assassinat dans la presse, parce que les gens du Cap disent qu'ils n'étaient pas en danger, ils ont tiré de sang-froid, ils savaient ce qu'ils faisaient. Voilà, donc Gilbert Bénard est touché, il ne meurt pas sur le coup, les détenus qui ont vu ça, ils pètent les plombs, normal, ils dégradent et incendient la salle de cinéma. Ceci dit, donc, selon leur version à eux, il y a eu beaucoup moins de dommages que ce qui a été raconté dans les médias. Les détenus qui sont proches de Bénard demandent à ce qu'on l'évacue au plus vite, forcément, ils disent qu'il est touché. Et là, comme ça s'est passé d'autres fois, chantage des autorités qui demandent aux détenus de se rendre pour évacuer Bénard. Donc Bénard, il est en train de crever, il perd une heure et il décède avant même qu'on l'emmène en ambulance à l'hôpital. Voilà. Et en plus, au passage, les détenus, quand ils remontent en cellule, ils se font tabasser, forcément.
Et ensuite, il y en a certains qui essayent de parler aux journalistes par les fenêtres de leur cellule. Et pareil, ils se font sortir de leur cellule et défoncer par les CRS. Donc voilà, ça
ce
c'est...
Ce que le progrès ne dit pas, bien évidemment.
C'est bizarre.
Parce
c'est
que vraiment, quand ils les remontent en cellule, on a l'impression que c'est tout sympa. 17h, le feu, il est éteint. Bon, il y a quand même le troisième étage qui est brûlé, les sièges et la literie, puis la vaisselle, mon Dieu, elle est cassée. Voilà. Oh, ça, c'est grave, ça coûtait cher. Et du coup, ouais, voilà, ils disent les mutins sont rassemblés, ramenés par groupe de trois dans leur cellule, hein, tous faits tranquillement, comme une colonie de vacances, quoi. Et le truc qui se passe ensuite, c'est que aussi quand il y a l'annonce, comme tu disais, de la mort de Gilbert Bénard, le progrès dit qu'à 20h, en fait, il y a de nouveaux incendies, mais dans le quartier des mineurs. Donc il y a des solidarités entre quartiers comme ça. Et que les CRS rétablissent le calme avec des grenades lacrymogènes.
Voilà.
Voilà, sympa.
Tranquillou, lacrymo, voilà. Tranquillou.
Et aussi, il parle d'une femme qui, à l'extérieur, qui vraisemblablement criait, annonçait la mort de Bénard. Et que du coup, les prisonniers disaient que c'était un gosse, qu'il n'avait rien fait. Et du coup, là, ce qui paraît, ils auraient commencé à casser des vitres. Donc voilà, normal, hein, la haine, quoi, si ça s'est fait. Et là, il y a enfin la première parole de prisonnier qu'on entend, qui est un peu plus longue que les autres. Hein, bon, c'est pas grand-chose en même temps. Et là, donc, le journaliste a fait le choix suivant. Il dit que c'est un porte-parole qui dit donc « Il faut raser toutes ces institutions napoléoniennes. Pourquoi on n'essaie pas de nous comprendre? On est encore des hommes. Il y a des gars qui ont ici entre 16 et 60 ans. » Quand on a des antécédents, on ne peut plus trouver des boulots. Ceux qui ont des femmes se retrouvent divorcés en sortant de tôle. Le soir, il y a un médecin qui est obligé, alors j'ai bien aimé le mot, obligé d'intervenir pour un détenu qui a une crise nerveuse. Donc voilà. Et voilà. Ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la sortie de la maison d'arrêt, en fait, il y a le proc de l'époque, le procureur, qui déclare que le surveillant qui est auteur du coup de feu mortel, hein, donc il parle vraiment que de Gilbert Bénard, que d'un coup, enfin bref, est laissé en liberté et l'enquête déterminera les causes de la mort. Et le directeur de l'époque, Villard, il s'appelle Villard, dit très simplement, donc pour expliquer tous les coups de feu, à force d'être sur les nerfs, on arrive à faire des choses qu'on ne ferait pas dans un état normal.
Et ben voilà.
Ben voilà, comme par hasard. Le lendemain, donc le 29, il y a 50 CRS qui restent en faction, donc une vraie occupation policière à l'intérieur de la Talo. Et dans le même jour, il y a deux tentatives de suicide, donc deux personnes, Jean-Miré Akian, 36 ans, donc qui absorbe une quantité de ressorts d'épingles à linge, et... une autre personne, Bekel Hassen, 18 ans, lui, qui absorbe des débris de verre. Et là, on voit déjà les journaux parler du chantage au suicide, un peu, enfin, ce genre de truc, il y a de la simulation avec les suicides et tout. Et voilà. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que la mère, enfin, les parents de Gilbert Bénard se constituent partie civile et porte-plainte, puisqu'ils pensent, comme le CAP, comme tout ce qu'on réussit à démontrer point par point le CAP, qu'au vu de la configuration de l'établissement, donc il ne pouvait pas s'évader, puisque le toit où il était en plein centre de la prison, et qu'il a été abattu sans arme et d'une balle dans le dos. Et alors là, elle dit qu'elle fait confiance en la justice, et par contre, c'est là, peut-être ça sera au prochain chapitre, on essaiera de voir un peu quel procès il y a eu, parce que généralement, faire confiance en la justice, ça ne se passe pas toujours très bien. Et pour la petite anecdote qui fait plaisir quand même, c'est que suite à la mutinerie et à l'assassinat de Gilbert Bénard, donc ce maton zélé là, qui est dégueulasse, et ben le lendemain, une semaine après, enfin quelques jours après, il fait un infarctus, hein, et c'est publié dans la presse. Donc ça, c'était la petite anecdote. Donc lui, il a fait un infarctus. On apprend ensuite que les gardiens, et là, c'est un truc qui est intéressant en fait, et qui nique en fait tout le. Enfin moi, c'est mon interprétation. Hein. Mais là, à partir de ce moment-là, donc les gardiens, il y a une espèce de mouvement comme ça en France où les gardiens ils disent qu'ils n'assurent plus, qu'ils veulent plus assurer leur taf, etc. Donc ils sont un peu remplacés par les flics, à l'époque les gardiens du corps urbain. Et en fait, là, il y a leur petite rengaine, là, qui, alors je ne sais pas si avant on l'entendait déjà, mais sur les conditions de travail. Et que les détenus ne respectent plus les surveillants. Et ça, c'est ça, ils ne cessent de le répéter maintenant. Donc à chaque fois, les détenus ne respectent plus les surveillants. Et en fait, moi, ce que j'ai vu du coup en épluchant la presse, c'est qu'à partir du moment où il y a cette grève, enfin ce mouvement de surveillants et soutenu par leur syndicat, hein, et ben en fait, ça mange tout. Enfin, de manière publique, ça mange, enfin dans les journaux, etc. Tous les mouvements, les mutineries, et moi, enfin, je trouve que c'est un énorme effet de communication, en fait. Alors, je sais pas si je suis assez claire, mais
en gros, tu veux dire que la grève des gardiens, ça fait qu'on parle plus du tout des conditions de détention et des raisons de la révolte,
mais des conditions de travail des surveillants de prison.
Et ben ouais.
Uniquement.
C'est bien pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a décidé sciemment de ne pas piper mot sur le mouvement de grève des gardiens ce mois-ci. On s'en fout, s'ils n'aiment pas leur travail, ils n'ont qu'à le quitter.
Et du coup, bah, si vous remarquez maintenant, hein, si vous êtes un peu attentif, et puis bah, c'est ce qui se passe à chaque fois, c'est ce dont on a parlé à chaque fois, par exemple à Rouen, quand on a réévoqué un peu les violences à l'intérieur de la prison, que soi-disant les surveillants disent que les détenus sont toujours de plus en plus violents. À chaque fois qu'il y a un mouvement de prisonniers, derrière, il y a toujours ce truc de communication des surveillants qui disent non, mais les conditions de travail, ça va pas. Et tout de suite, la parole, elle est noyée, on la voit plus, quoi.
Et d'ailleurs, en 1974, comme aujourd'hui, moi, j'ai vu pas mal de fois dans des communiqués de surveillants qui disent « Nous dénonçons le laxisme de notre direction. » Genre, notre direction ne nous soutient pas, ne nous protège pas et est trop laxiste avec les détenus. Alors qu'on voit bien que quand les gars, ils se prennent des mois et des années de prison en rab pour du shit ou une bagarre ou une altercation avec un surveillant, c'est pas du laxisme, quoi.
Mais les types, ça fait 40 ans qu'ils disent ça, les matons, quand même. Bon, hein.
Eh ben, renouvelez votre discours, mon Dieu.
Putain, 40 ans, quand même, hein. Waouh. Et donc, du coup, voilà. Et puis, bon, bah, suite à ça, il y a eu toute une série de réformes et tout. Et notamment, enfin, des réformes, entre guillemets, quoi. Et enfin, c'était un effet d'annonce aussi du gouvernement. Enfin, il y a eu des mesures qui ont été prises, etc. Mais il y a surtout une annonce du ministère de l'Intérieur qui dit « Le chahut sera réprimé. » deux petits points et trois points, tir sans sommation pour toute tentative d'évasion, grenade offensive dans le cadre d'une mutinerie obligatoire, quoi, et garde à vue portée à 4 jours. Donc voilà, c'est prenez ça dans votre gueule, fermez votre gueule et laissez la parole aux surveillants. Parce que ce qui fait chier aussi, c'est d'entendre maintenant dans des débats publics, d'entendre par rapport à la parole en prison, que les... Enfin, il y a eu un débat là dernièrement sur la prison, la dernière grande muette, entre guillemets, et où il était dit qu'en fait, les surveillants n'avaient pas non plus la parole, quoi. Ils les mettaient sur le même pied que les prisonniers.
Voilà, on en a fini avec cette petite page d'histoire.
Mmh. Voilà. Là, et puis on fera des recherches sur le procès quand même qu'il y a eu. Ouais.
Voilà, ça aurait été bien de savoir comment ça s'est déroulé. Le
procès ?
Ouais.
Oui, ben je ferai une recherche quand je pourrai.
Ouais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est pareil, je voulais dire un truc pour conclure, mais je ne m'avancerai pas parce que je ne suis pas historienne et je ne me suis pas trop penchée là-dessus. Mais toutes les réformes qu'il y a eu à la fin des années 70... et ensuite dans les années 80, elles viennent pas de nulle part ni de l'humanisme des gouvernants, quoi. Elles viennent en grande partie des luttes de prisonniers.
Bah comme les collines Noël, par
voilà.
exemple.
Et ça, on le dit pas assez.
Bah, d'ailleurs, oui, il y a eu beaucoup les émeutes sont parties au début de 70 avec une histoire de collines Noël justement, qui voulait le supprimer.
Ouais, voilà. Enfin, c'est pas. Enfin, là, tout est à la rubrique faits divers, mais en fait, du progrès. Hein. Mais sauf que c'est pas des faits divers, quoi. C'est une lutte sociale avec des rapports de force, quoi. Enfin, je veux pas faire des grands mots. Je fais des grands mots, oui.
C'est vrai. Bon, on vous a assommé de plein de petites histoires. Pendant une demi-heure, on va peut-être faire une pause musicale, ouais. Non ?
Allez,
ouais.
C'est parti.
Les Scatalites.
Thank you.
Et voilà, toujours à l'écoute de Papillon 89.5 sur Radio Dio. Donc on va passer maintenant, on va faire une petite présentation du journal L'Envolé.
Le dernier numéro.
Qui est sorti, le dernier numéro, voilà, qui est sorti il n'y a pas très longtemps.
Ouais, donc on rappelle vite fait, L'Envolé, c'est un journal pour en finir avec toutes les prisons, qui a un peu le même but que Papillon, c'est de donner avant tout la parole à des prisonniers, à leurs proches. Donc il y a des lettres, etc., etc. Donc le numéro de novembre est sorti, numéro 29. Donc je vous dis juste vite fait le contenu, hein, enfin une partie du contenu. Il y a plein de trucs.
Bah, il y a les lettres de la Talo déjà.
Il y a les lettres de la Talo. Voilà, il y a un retour en fait sur à la centrale de Moulins en 2005. Il y a eu une prise d'otage par en protestation par un détenu. Et c'est la retranscription des négociations qu'il y a eu entre lui et la paix. Voilà, il y a des petites choses quand même sur le mouvement contre la réforme des retraites, parce que la prison n'est pas complètement coupée du monde extérieur, n'est-ce pas ? Il y a les histoires de Kaoutar, c'est une détenue qui était sur Versailles, dont on a déjà parlé, et qui a eu pas mal d'embrouilles au travail, et aussi des histoires psychiatriques. En gros, ils l'ont cachetonnée à fond et envoyée en psychiatrie pour la calmer, parce qu'elle était un peu trop grande gueule. Voilà. Il y a un retour sur la mort d'Éric Blaise. C'est un gars qui a été arrêté en 2005 et qui, dès son incarcération, a passé une nuit au mitard et en est jamais ressorti vivant. Et c'est une histoire super louche. Et donc, sa famille, soutenue par les gens de L'Envolé, essaye de faire la lumière un peu sur cette histoire. Et donc, ils reviennent dessus, là, sur des rapports médicaux qu'il y a eu et tout. Et ils montrent en gros comment... ils savent pas ce qui s'est passé vraiment, mais on leur raconte n'importe quoi et c'est révoltant. T'as un proche, il entre en tôle, il en sort pas, il meurt au mitard et tu comprends pas pourquoi. Donc voilà, il y a pas mal d'autres trucs dedans, mais je vais pas tout détailler.
Juste moi, ce que je veux dire par rapport à L'Envolé, en fait, c'est qu'il y a aussi une émission, c'est aussi une émission de radio qui est diffusée sur Paris. Par exemple, moi, j'écoute sur Internet et en fait, par exemple, les courriers de Kaoutar qui sont extrêmement, forts. Et hyper descriptif de ce qui se passe à l'intérieur, et elle ne mâche pas ses mots, et elle se bat et tout. Mais en fait, par exemple, le fait qu'il ait L'Envolé, ce support radio et papier, en fait, permet aussi aux détenus de correspondre entre eux et de se répondre, justement, et créer aussi comme ça un lien, alors que les personnes ne se voient pas, ne peuvent pas lutter ensemble, mais en tout cas, elles se soutiennent à travers ces biais-là, et c'est pas rien quand on est isolé comme ça, et voilà. Ouais. Et c'est ça aussi qui est vachement important.
Carrément.
Donc si aussi, quand vous lisez, que vous entendez des témoignages qu'on lit ou quoi, et que vous voulez rebondir, bah voilà, faites-le, parce que c'est aussi hyper important, quoi.
Si on dit des conneries aussi.
Il faut nous le dire.
Ah, et puis c'est surtout qu'à Paris, il y a le contexte aussi qu'il y a plein de tôles, et du coup, ils se voient pas forcément, quoi. Et donc, ils peuvent parler de tôle à tôle.
Mais bon, déjà, le fait qu'à Saint-Thé, donc les deux lattes qu'il y a eu, qui se répondaient, qui correspondaient ensemble, et qui ont été publiées dans l'envolée, celle de Jimmy et Nabil, c'était quand même déjà quelque chose d'important.
Ouais, et ce journal est pas que pour les à propos des prisons de la région parisienne, c'est vraiment pour toute la France, et surtout aussi il est gratuit pour les prisonniers. Il rentre pas dans toutes les prisons, mais il rentre dans certaines, et ça vaut le coup de le lire, de le faire tourner, de faire tourner le mot et tout. Donc je vais être chiante avec mes adresses, mais prenez votre stylo si vous voulez demander à l'envoler un abonnement gratos, et aussi si vous voulez leur écrire et leur raconter ce que vous vivez, ce que vous pensez, ils seront très contents. Donc leur adresse, c'est l'envoler, 43 rue de Stalingrad, 93 100 Montreuil. Voilà.
Je peux redonner, ouais, je vais redonner vite fait les numéros.
Attends, j'avais oublié un truc. Ouais, et l'envolée à Saint-Étienne, vous pouvez le trouver à l'étrange rendez-vous. C'est une librairie de BD vers la Bourse du Travail. Et puis de temps en temps, avec un peu de chance, vous pouvez en retrouver au squat La Plage, 86 rue de la Sablière, quand il s'y passe des choses.
Je vais redonner les numéros des cabines téléphoniques et du portable à joindre pour soutenir les personnes qui sont les sans-papiers qui sont à Vincennes, au centre de rétention. Donc c'est 01 45 18 12 40. Après, il y en a un autre, 01 45 18 02 50. Et le numéro de portable, 06 11 77 06 26.
Voilà, sinon on voulait rappeler que samedi prochain, le 11 décembre à Lyon, il y a un grand débat sur la prison organisé par l'Observatoire international des prisons. Ça dure toute la journée, de 9h30 à 18h30. C'est au grand amphi de la fac de droit de l'Université Lyon 2, c'est sur les quais Claude Bernard. Alors voilà, le thème c'est l'expression individuelle et collective des prisonniers. Alors, pas que des prisonniers, comme on disait tout à l'heure, il faut que tout le monde ait droit à la parole, blablabla.
Non, on ne partage pas cette position.
Mais déjà parler de... Enfin, l'expression des prisonniers, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas du tout, si ça se trouve, ça va être un petit peu chiant et très consensuel. Si ça se trouve, ça va être intéressant. Ça peut valoir le coup que les premiers concernés aillent ouvrir leur gueule. En tout cas, nous, il y a des chances qu'on y soit.
L'autre truc, c'est l'adresse de l'émission.
Oh, ben oui.
Et la rediffusion. Rediffusion, oui. Elisa.
Alors, rediffusion. Donc, je rappelle, aujourd'hui, cette émission est enregistrée en live. On est le dimanche 5 décembre. Et cette émission sera rediffusée, si je ne me perds pas trop dans les dates de rediffusion, le 21 décembre à 20h sur Radio Canu à Lyon. Voilà, c'est 102.2 FM. Et le jeudi 30 décembre à midi sur Radio Dio, donc 89.5 FM à Saint-Étienne.
Donc pour nous écrire, parce que c'est pas l'émission, elle a du sens que si vous nous écrivez, parce que c'est l'émission, on l'a construit à partir de la parole des prisonniers. Donc voilà, pour nous écrire, c'est émission Papillon chez Radio Dio, 14 bis rue de Roubaix, BP 51, 42 000 002 Saint-Étienne CEDEX 1. Il y a aussi un mail.
Ah oui, le mail, c'est émission papillon tout attaché et sans accent @riseup.net.
riseup.net.
.net. Voilà.
Et
on se retrouve le premier dimanche de janvier, 17h30, 19h.
Et une bise, Nabil, hein, j'essaie de venir te voir au parloir. Et si je viens pas, promis, je t'envoie une lettre. Et voilà, courage, tiens bon surtout là. Et je te fais de gros bisous. Et puis courage à Jimmy si t'es encore à la talo, si tu nous entends. Et j'espère que ta femme, ça va.
Et voilà, et tout pareil, voilà. Et puis beaucoup de courage et on espère que vous n'avez pas trop froid à tous les détenus de la Talo et puis à leurs proches et puis bonsoir à tout le monde.
Allez, bah salut à tous.
Courage à tous.
Au mois de janvier. Ouais. Ciao.
Dans une putain de cellule au premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4 heures du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain la sirène gueule et quelques poussins crient. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tôle. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. J'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la